qui d'autre pourrais-je m'appuyer? Où sont mes alliés? Votre frère de France, madame? Qui devrait se conduire comme le mien, puisqu'après tout, c'est dans cette espérance que l'on m'a engagé à vous accueillir comme épouse. Quel secours me porte-t-il? Il me requiert de venir lui rendre hommage pour l'Aquitaine. Voilà tout son appui. Et où m'envoie-t-il sa sommation? En Guyenne? Que nenni! C'est ici, en mon royaume, qu'il me l'a fait délivrer, comme s'il avait mépris de toutes les coutumes féodales, ou le vouloir de m'offenser. Ne croirait-on pas qu'il se prend aussi pour le suzerain de l'Angleterre? D'abord, j'ai rendu cet hommage. Je ne suis que trop allé le rendre. Une première fois à votre père, quand j'ai manqué de rôtir dans l'incendie de Maubuisson, et puis encore à votre frère Philippe, voici 3 ans quand je suis allé à Amiens. À la fréquence, madame, où meurent les rois de votre famille, il me faudra bientôt m'installer sur le continent. Les seigneurs, évêques et notables de Yorkshire, dans le fond de la pièce, se regardaient entre eux, nullement effrayés, mais atterrés de cette colère sans force qui s'égarait si loin de son objet, et leur découvrait en même temps que les difficultés du royaume le caractère du roi. Était-ce donc là le souverain qui leur demandait subside pour son trésor, auquel ils devaient obéissance en toute chose, et d'aventurer leur vie quand il les requierait à ses combats? Lord Mortimer avait eu certes quelques bonnes raisons de se rebeller. Les conseillers intimes eux-mêmes paraissaient mal à l'aise, bien qu'ils connussent cette habitude du roi, et qui se retrouvaient jusque dans sa correspondance, de refaire le compte de tous les ennuis de son règne à chaque nouveau désagrément qui survenait. Le chancelier Baldock se frottait la pomme d'Adam machinalement à l'endroit où s'arrêtait sa robe d'archidiacre. L'évêque Dexter, lord trésorier, se rongeait l'ongle du pouce à petits coups de dents et observait ses voisins d'un regard sournois. Seul Hugh le Despenser le jeune, trop frisé, trop paré, trop parfumé pour un homme de 33 ans, montrait de la satisfaction. La main du roi posée sur son épaule prouvait à tous son importance et sa puissance. Le nez bref, la lèvre sinueuse, abaissant et relevant le menton comme un cheval au piaffé, il approuvait chaque déclaration d'Édouard d'un petit raclement de gorge, et son visage semblait dire « Cette fois, la coupe est pleine, nous allons prendre des mesures sévères. » Il était maigre, long de taille, assez étroit de torse, et avait une mauvaise peau sujette aux inflammations. « Messire de Bouville, » dit soudain le roi Édouard, se retournant contre l'ambassadeur, « vous répondrez à Monseigneur de Valois que le mariage qu'il nous a proposé, et dont nous avons apprécié tout l'honneur, décidément ne se fera pas. Nous avons d'autres vues pour notre fils aîné. Ainsi en sera-t-il terminé avec une déplorable coutume qui veut que les rois d'Angleterre prennent leurs épouses en France, sans qu'il leur en vienne jamais aucun bienfait. » Le gros Bouville pâlit sous l'affront et s'inclina. Il adressa à la reine un regard désolé et sortit. Première conséquence, et bien imprévue, de l'évasion de Roger Mortimer, le roi d'Angleterre rompait avec les alliances traditionnelles. Il avait voulu par ce trait blesser sa femme, mais il avait blessé en même temps ses demi-frères Norfolk et Kent, dont la mère était française. Les deux jeunes gens regardèrent leur cousin Torscoll, lequel haussa un peu plus l'épaule d'un mouvement d'indifférence résignée. Le roi venait sans réflexion de s'aliéner à jamais le puissant comte de Valois, dont chacun savait qu'il gouvernait la France au nom de son neveu Charles le Bel. Le jeune prince Édouard, toujours près de la fenêtre, immobile et silencieux, observait sa mère, jugeait son père. C'était de son mariage après tout qu'il s'agissait, et dans lequel il n'avait mot à dire. Mais si on lui avait demandé ses préférences entre son sang d'Angleterre et celui de France, il eût penché pour ce dernier. Les 3 plus jeunes enfants avaient cessé de jouer. La reine fit signe aux chambrières qu'on les éloigna. Puis, très calmement, les yeux dans ceux du roi, elle dit « Quand un époux est son épouse, il est naturel qu'il la tienne pour responsable de tout. » Édouard n'était pas homme à répondre de front.